père, quand mes parents sont séparés, que mon père en fait nous a abandonnés puisqu'on s'est très très peu vu le reste de nos... on s'est peu vu et peu connu.
C'est le mot que vous utilisez, le mot d'abandon. Vous aviez 5 ans quand votre père est parti et a abandonné votre mère.
Oui, et on s'est finalement pas vu beaucoup pendant le reste de son existence. Mm-hmm. Puisque maintenant il est parti il y a une dizaine d'années, en 2009. Et il y a en fait un phénomène qui, je dirais, souvent il vaut mieux avoir quelqu'un contre lequel se rebeller, un père ou une figure paternelle contre laquelle se rebeller, parce que ça vous permet de vous construire. Et c'est plus difficile, je pense, de se construire face à une béance ou une indifférence.
Mais Jean-Michel Jarre, ce père qui a été absent est très présent dans votre livre. On le voit réapparaître vraiment très souvent dans votre livre. Cette présence-absence vous a construit quelque part ?
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que je pense que, en même temps que ça a été une béance et une douleur et une mélancolie, donc, ça a aussi été un vecteur de construction. Il y a deux paramètres principaux. Je pense qu'il y a effectivement ce qui vous arrive, le destin, puis la manière dont on va aussi suivre son destin, la manière dont on va l'affecter, dont on va le diriger.
Ce qui est quand même impressionnant, c'est que votre père... Alors, je voulais parler de votre mère d'abord, on va en parler, parce qu'elle a joué un rôle très important, elle joue un rôle important dans votre vie. Mais on parle d'abord de votre père, cet absent très présent. C'est l'un des plus grands compositeurs de films du XXe siècle, Maurice Jarre. Vous êtes l'un des plus grands compositeurs de musique du XXe siècle. Il y a un parallèle impressionnant dans vos vies et sur beaucoup d'autres aspects également au niveau de votre vie privée, on pourra peut-être en parler. Il était absent, mais on a l'impression que vous vous êtes construit en parallèle avec cet homme.
Oui, c'est très...
C'est lui qui vous a donné envie, par exemple, de devenir compositeur de musique ?
Alors non, parce que, en fait, peut-être sur le plan des chromosomes, mais certainement pas consciemment, parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, j'étais enfant ou ado, les musiciens de musique de film étaient beaucoup moins au devant de la scène. Donc c'était très abstrait, ils vivaient sur un autre continent, on était bien avant Internet.
Lui vivait aux États-Unis.
Il vivait aux États-Unis. Pour moi, mon père faisait de la musique, mais j'ai pas... vraiment suivi non plus ce qu'il faisait. Et c'est vrai que ce chemin parallèle m'a fait, effectivement, au fond, regretter le fait que c'est très rare d'avoir un musicien français qui a une carrière internationale, mais deux dans la même famille, ça n'existe pas pratiquement. C'est pas un scénario crédible, on dirait. Et qu'on n'ait justement pas réussi une seule fois dans notre vie à parler même de musique.
Ensemble, vous n'avez jamais parlé de musique
ensemble. Ça, c'est jamais arrivé.
Il n'est jamais venu vous voir pour vous dire bravo, quand vous avez eu énormément de succès à partir des années 76.
Non, ça n'est jamais arrivé. On se voyait par hasard pour se dire des banalités, au fond. Alors, il y avait peut-être une part de pudeur, mais un mystère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme pour qu'il soit handicapé du cœur ou handicapé de... Et il y a dû avoir une fêlure et une brisure que je n'ai jamais su. J'avais des relations, on aura peut-être l'occasion d'en parler, extraordinaires avec mes grands-parents, c'est-à-dire ses propres parents. J'ai du mal à penser que ses parents aient pu lui faire un mal tel qu'il décide de couper les ponts et les sentiments avec le reste de sa famille. C'est un mystère.
Visage, Thierry Lyonnais.
Jean-Michel Jarre, parlons de votre mère, France Peugeot. Si vous êtes très attaché à la ville de Lyon, c'est non seulement parce que vous y êtes né en 1948, mais c'est aussi parce que votre mère est de Lyon. Un passage porte son nom à Lyon. Pour vous, c'est un symbole très fort que cette femme, ancienne résistante, ait donné son nom à un passage dans cette ville de Lyon.
Alors, d'abord, elle va donner son nom à un passage, puisque c'est quelque chose que la ville de Lyon a décidé de faire pour 2020. Et effectivement, d'ailleurs, quand on parle de Lyonnais, je suis un vrai Lyonnais, puisque non seulement ma mère, mais mon père est Lyonnais. Mes deux parents sont Lyonnais, mes grands-parents aussi, des deux côtés, sont Lyonnais.
Donc, très attaché à cette ville.
Très attaché à cette ville, forcément, qui est une ville... qui est assez secrète. En fait, c'est une ville, c'est un oxymore, Lyon aussi. C'est une ville avec deux fleuves, c'est une ville avec deux collines, la colline qui prie, qui travaille, c'est une ville d'ombre et de lumière, c'est une ville de contraire, c'est une ville catholique et de franc-maçon aussi. Donc, c'est une ville que j'aime profondément à cause de ça.
Mais si vous le voulez bien, Jean-Michel Jarre, revenons à votre maman, cette femme résistante pendant la guerre, déportée. Et je vous avoue que j'ai été très ému de découvrir que votre mère avait été déportée dans l'un des derniers convois pour Ravensbrück, le 15 août 1944, parce qu'il y a quelques jours, passait dans cette émission Jacqueline Fleury-Marié, déportée à Ravensbrück. le 15 août 1944. Elle était dans le même convoi que votre maman.
Oui, alors ma mère était un personnage extraordinaire. On a toujours tendance à penser que nos mères sont des personnages incroyables, mais en ce qui la concerne, c'était vraiment quelqu'un d'absolument, objectivement extraordinaire. Une héroïne de la guerre, comme vous venez de le dire, une héroïne tout court aux yeux de l'enfant que j'étais et de l'adulte que je suis. Et en réalité, donc pourquoi elle a ce parcours incroyable pendant la guerre, c'est qu'elle rentre très tôt dans la résistance, fin 41. Elle va être capturée 3 fois par les Allemands, elle va s'échapper, elle va même s'échapper aussi des camps, dans les circonstances que je raconte dans le livre. Et elle va aussi, en fait, avoir aussi un parcours de vie par rapport à moi, par rapport à sa famille, tout à fait noble et tout à fait, je dirais, intègre et tout à fait exceptionnel. Et en fait, ce qui est assez amusant dans ce que vous disiez, sur le fait la ville de Lyon a décidé qu'on nomme un passage après son nom, c'est qu'en fait, l'inconnu de nous trois, la moins connue de nous trois, de mon père, d'elle et de moi, a la postérité de la rue et la reconnaissance du peuple, si je puis dire.
Ça me touche beaucoup.
Et ça me touche beaucoup. Mmh. Et puis d'imaginer aussi que des gens vont naître, vont vivre, vont s'aimer. Passage France Peugeot, mmh. Évidemment quelque chose qui me plaît beaucoup.
Jean-Michel Jarre, vous écrivez dans votre livre « La résistance est comme un héritage tatoué dans mes gènes ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, votre mère, qui fait de vous aussi un résistant?
Bien, l'idée que... il faut, quand un pouvoir en place génère des idées ou des faits qui peuvent être négatifs pour notre communauté, il faut qu'un certain nombre d'entre nous, si possible le plus grand nombre, résistent et se lèvent contre cela. Et c'est ce qu'elle m'a appris à un très jeune âge, et aussi de faire une différence entre une idéologie et un peuple, à l'époque entre les nazis et les allemands, ce qui n'était pas si courant. Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est ce qui m'a aussi toujours donné la conviction qu'il faut justement faire une différence entre un régime et une population.
Explique que vous donnez des concerts aussi bien en Arabie Saoudite, et que si on vous appelle en Corée du Nord, vous iriez donner un concert?
Absolument, je pense que l'agenda des artistes et des politiques n'est pas le même, et qu'il faut comprendre que les gens, les populations qui n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, si en plus on les prive de culture, de musique, de cinéma, de littérature, on leur applique la double peine, au fond, et on a tendance à finalement faire une sorte de fondamentalisme à l'envers, et de collaborer à une forme de radicalisation ou d'aliénation. Et je pense qu'il faut évidemment aller dans ces pays-là.
Et vous seriez prêt à jouer partout?
Absolument, mais je pense qu'il faut même aller jouer dans ces endroits-là plus tôt. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est là où les gens en ont le plus besoin. Et quand on a la chance de pouvoir faire passer... La culture, c'est une forme de cheval de Troie. C'est-à-dire de pouvoir entrer dans un certain nombre d'endroits et de pouvoir justement aider à... pas seulement cicatriser les plaies, mais en même temps de pouvoir justement créer du lien émotionnel, du lien sur le plan du cœur. Mmh. Et je pense que c'est capital. On prend l'exemple de l'Arabie Saoudite, par exemple, 50%, plus de 50% de la population aujourd'hui a moins de 30 ans. C'est les gens qui vont être au pouvoir dans 20 ans, qui vont avoir un pouvoir de décision, même avant. Mmh. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et je pense que si aujourd'hui, du haut de notre arrogance occidentale, on les prive de tout ça, eh bien finalement, on ne va pas dans l'intérêt commun. Mmh.
Jean-Michel Jarre, vous avez donné des conditions à l'Arabie Saoudite quand vous avez donné votre concert, je pense par rapport au rapport homme-femme.
Oui, les conditions, c'était de faire un concert en extérieur, parce que du coup, c'est par définition ouvert à tous, c'est plus difficile de faire quelque chose qui soit réservé à une élite. Et l'autre chose, c'était évidemment que le public soit absolument mixte et que les femmes soient traitées à égalité avec les hommes.
Et ça a été accepté.
Et ça a été accepté. Je pense que ce pays veut vraiment changer, et ça a été accepté. Et quand je suis rentré sur scène, je me souviens de l'émotion que j'ai eue de voir des femmes bouger, taper dans les mains et exprimer leur joie. Donc c'était de manière assez libre, c'était extrêmement émouvant.
Je vous parlais de ce gène de la résistance. En 2013, vous avez composé un morceau avec Edward Snowden, qui a révélé le système de surveillance de la NSA. Ça fait partie aussi de cette volonté de résister face à un système qui nous contrôle, qui peut nous contrôler?
Ben, c'est amusant que vous fassiez référence à ça juste après avoir parlé de ma mère, parce qu'en fait, la première fois que j'ai entendu Edward Snowden parler, il m'a fait penser à ma mère, c'est-à-dire en véhiculant les mêmes valeurs. C'est-à-dire, encore une fois, quand un pouvoir en place génère des actions ou des stratégies qui peuvent être négatives pour la communauté, il faut qu'un certain nombre d'entre nous se résistent et se lèvent. Et c'est exactement ce qu'il a fait. pour moi, Edward Snowden était un exemple d'une action héroïque contemporaine. Et il n'a pas fait ça pour affecter son pays, il a fait ça pour l'améliorer. Et en fait, on s'aperçoit que tous les progrès en matière sociale et de droits humains ont toujours été faits contre le pouvoir en place. Et d'ailleurs, il faut rappeler aux gens qui veulent, aux Américains qui veulent mettre Edward Snowden en prison, que l'État américain, la République américaine, a été fait sur un acte qui a été considéré comme un acte de traîtrise par le roi en place à l'époque. Donc il faut l'oublier. Et en fait, l'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes, tous les progrès qui sont arrivés dans notre société ont toujours été faits contre le pouvoir en place. Et c'est ce qu'a fait Snowden. On lui doit beaucoup, puisqu'on lui doit le fait d'avoir arrêté d'avoir cette attitude naïve vis-à-vis d'Internet et de montrer qu'il y a un danger dans la technologie du web, c'est celle d'être violé dans notre vie privée. Donc il mériterait d'une certaine manière le prix Nobel de la paix.
Technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored in our private journals?
I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. It's a deeply anti-social principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today may have value to an entire, you know, population, an entire people, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will?
Jean-Michel Jarre, le jeune garçon que vous étiez, a eu une formation de musique classique au début, au conservatoire, vous avez appris le piano, vous avez eu une professeure un peu sévère, vous avez aussi très rapidement créé vos premiers groupes de rock à l'époque, on est dans les années 60, c'était le courant du rock. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui vous a fait quitter le rock, qui avait le vent en poupe à l'époque, pour vous orienter vers quelque chose de très pointu, d'exigeant, c'est-à-dire la recherche musicale électronique?
Alors c'est une question qui est intéressante parce que au-delà de moi, je me souviens qu'à l'époque justement de ces groupes, il y avait à l'Olympia, à Paris, des soirées qui étaient organisées d'une manière assez libre où des tas de groupes anglais venaient jouer. Des groupes pas très connus encore à l'époque, qui sont devenus comme Procol Harum, comme Soft Machine, comme King Crimson, etc. Et en fait je me disais, c'est finalement, cette musique qui est la musique de notre génération, c'est... Ils tiennent quand même, les Anglais, les Anglo-Saxons tiennent leur révolution sur le plan de l'expression du genre musical.
Et pas les Français sur le rock.
Et au fond, nous, c'est la leur, ce n'est pas la nôtre. Et quand je suis en contact avec Pierre Schaeffer et avec le groupe de recherche musicale, où je vais passer 3 ans à étudier et à apprendre la musique électroacoustique, électronique, je rencontre pour la première fois des gens qui approchent la musique pas d'une manière traditionnelle seulement en fonction de notes basées sur le solfège, mais en fonction de sons. Et en disant, la musique est faite de sons et de bruits, et on peut aller enregistrer le son de la pluie, du vent ou de la rue avec un micro, et en faire de la musique. Et je me suis dit, nous tenons notre évolution. Cette idée-là, c'est une idée qui n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock, qui n'a rien à voir avec les États-Unis, qui vient de France et d'Allemagne et d'Europe continentale, qui vient aussi de cette réflexion qu'on a eue, qui vient de l'héritage de la musique classique. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie, entre autres, bien entendu, de me dire, je suis sur un chemin qui est foncièrement un chemin différent.
Mais Jean-Michel Jarre, cette recherche sur la musique contemporaine, elle a un côté très élitiste. On voit Pierre Boulez, Xenakis, c'était réservé à une élite de personnes aimant la musique contemporaine. Vous en avez fait une musique populaire. Comment vous avez fait ?
Alors, deux choses. D'abord, Pierre Boulez et Xenakis, les compositeurs que vous citez, ne sont pas des compositeurs qui étaient nécessairement dans l'électroacoustique ou dans l'électronique. C'était plutôt c'est des gens qui étaient dans l'avant-garde de la musique classique, qui ont poussé le système classique à son paroxysme d'une manière tellement cérébrale que, au fond, c'est une période très extrémiste et très radicale. Ce qui est une opinion personnelle, mais je vous donne un exemple. Je me souviens qu'au cours d'une masterclass que Xenakis était venu faire à un groupe de recherche musicale, il disait des choses comme, par exemple, le fait que tout ce qui procède de l'émotion en musique est suspect. Mmh. Des choses comme ça. Et justement, la musique électroacoustique et Pierre Schaeffer, Pierre Henry, se sont inscrits un petit peu en marge de ces mouvements. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, et je me suis toujours dit, cette musique électronique va devenir la musique la plus populaire au siècle
vous
prochain.
Vous le ressentiez, ça.
J'étais absolument convaincu.
Ah oui.
Parce que c'était une manière totalement organique et non cérébrale seulement de faire de la musique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous écoutez, par exemple, la musique de Boulez ou de Xenakis, qui était considérée comme l'avant-garde, c'est toujours ce qui devient classique 30 ans plus tard.
Vous c'est classique Stravinsky, aujourd'hui.
Non, c'est pas classique, c'est d'une certaine manière rétro. C'est-à-dire que vous écoutez Boulez ou Xenakis, ça vous fait penser à l'Atomium de Bruxelles, ça vous fait penser justement à cette époque des années 60-70, Le Corbusier des années 50, mais ça ne vous fait pas nécessairement penser au 21e siècle et à une vision futuriste.
Mais alors vous, Jean-Michel Jarre, quand vous écoutez votre musique des années 70, vous dites que c'est de la musique du 21e siècle ou vous dites que c'était de la musique datée, typée des années 70?
Alors, je n'ai pas cette prétention par rapport à un jugement de valeur sur la musique, mais en revanche, la manière d'aborder le son et la musique est quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait novateur et qui allait avec l'évolution de la technologie. C'est la technologie qui définit les styles et pas l'inverse. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi existait, et pas l'inverse. Et donc, du coup, l'électricité, puis l'électronique, a fait que, évidemment, tout ça a bouleversé nos vies, mais sur le plan musical, ça a aussi changé la manière dont on conçoit la manière de composer, de produire, de distribuer même sa musique.
Jean-Michel Jarre, transportons-nous dans le passé, été 1976, vous vous enfermez avec vos synthétiseurs, vos instruments, dans une cuisine transformée en studio et vous élaborez Oxygène. Qu'est-ce que vous recherchiez à faire ressentir à vos auditeurs en créant Oxygène ? Qui est ce qui vous a fait internationalement connaître?
Alors, comme dirait Picasso, ce qui est intéressant dans la création, ce n'est pas de chercher, c'est de trouver. Et au fond, il y a une part d'inconscience là-dedans. Et il y a une chose qui est importante aussi à dire, c'est que, et ce n'est pas négatif, mais je pense qu'on crée d'abord pour soi. Je pense qu'on ne crée jamais par rapport à une audience, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, en disant qu'est-ce qui va plaire à un public, parce que sinon vous êtes foutu d'avance. C'est pas ça. Et je crois que la musique, la création et le processus créatif est une addiction, c'est un besoin. Donc en commençant Oxygène, c'était quelque chose que je faisais presque pour me soulager, puisque j'avais les moyens, après avoir fait pas mal de choses, de chansons, de travaux pratiques, je dirais, par rapport à cette musique que j'avais envie.
Oui, d'écrire des chansons pour Christophe, voilà, Françoise Hardy.
Exactement.
Et ça vous a permis financièrement de pouvoir faire ce que vous aimiez.
Et donc de me dire, je me mets entre parenthèses parce que j'ai envie de faire ça un petit peu presque, je dirais, comme une, non pas comme un hobby, mais comme une activité en parallèle qui était vraiment la chose qui me passionnait. Et donc, je n'avais absolument aucune idée du succès que ce disque allait rencontrer.
Mais j'aime bien parce que la première personne qui a écouté Oxygène, c'était votre compagne de l'époque qui deviendra votre épouse quelques mois après, Charlotte Rampling. Et j'aime beaucoup ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, je n'ai jamais rien entendu de pareil, ça ne ressemble à rien d'autre. Soit ça passe inaperçu, soit ce sera un énorme succès. Elle avait bien pressenti les choses.
Tout à fait.
Vous pensiez que ça allait être un énorme succès ou
pas
vous pensiez
tout.
Que ça allait passer inaperçu?
Non, pas du tout. En fait, je ne pensais rien de particulier. J'avais déjà sorti aussi d'autres. J'avais fait d'autres tentatives avec des albums qui n'avaient pas dépassé le bout de ma rue en termes de notoriété. Donc, en plus, cet album avait été refusé par pas mal de maisons de disques. Donc, je n'avais absolument pas d'idée particulière sur la résonance de cet album. C'est que un peu plus tard, où je me suis rendu compte à quel point la vitesse de ce phénomène me dépassait.
Alors justement, Jean-Michel Jarre, comment est-ce qu'on vit à 20, vous aviez quel âge,
27 ans,
comment on vit une telle notoriété internationale qui vous tombe dessus aussi rapidement? Comment vous avez vécu ce moment?
D'abord, ça change évidemment, ça change les choses. Et c'est vrai que mon fils me le rappelait en disant oui, c'est incroyable parce que cette période-là, à la fois, je rencontre la mère de mes enfants, je fais Oxygène qui est un succès incroyable. Et en même temps, disons que comme j'avais déjà, c'est pas à 27, 28 ans, c'est pas comme à 18 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous tombe dessus. Mais comme j'avais déjà fait un certain nombre de choses qui avaient eu une certaine résonance, comme Les mots bleus, Paradis perdu, Où sont les femmes, les chansons que vous mentionniez, disons que ça a été une sorte de développement. Et en même temps, dans ma carrière, et en même temps, le fait que ce soit justement une musique qui soit totalement différente du reste, je ne suis pas rentré dans un système. Donc,
Jean-Michel Jarre, les paroliers, ils sont invisible.
Mais c'est pas seulement
alors
des paroliers, parce que là
vous deveniez une star. Oui. Utilisons le mot, vous êtes devenu une star, mais très rapidement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on vit ça intérieurement.
Alors, on le vit, j'imagine, de plusieurs manières. En ce qui me concerne, je pense que je l'ai vécu en me protégeant beaucoup, parce que c'était le moment où, en même temps, je fondais une famille. Et donc, évidemment, ça change d'abord les choses énormément sur le plan
financier, bien sûr.
Sur le plan des moyens. C'est-à-dire que on a pu prendre une maison, on a pu vivre avec les enfants de la meilleure manière. Donc, je me sens extrêmement privilégié par rapport à cette période et par rapport à mon trajet de vie dans l'absolu. Mais en même temps, ce qui change, c'est que d'un seul coup, vous avez des nouveaux amis qui ne sont pas nécessairement de vrais amis, avec un grand A, et vous faites attention de ne pas perdre les vrais. Et puis,
ça n'isole pas, ça, finalement ? Ça ne rend pas très méfiant dans les relations ?
Je n'ai jamais été très méfiant. J'ai plutôt fait confiance au risque d'être déçu. Mais je pense que ce n'est pas bien de se renfermer pour quelque raison que ce soit. Donc, j'ai essayé de ne pas le faire. Et en même temps, j'ai créé Oxygène avec aucune pression. Et d'un seul coup, le deuxième album qui va être Equinox, d'un seul coup, il y a une pression qui se fait puisque vous rentrez dans un système de production. Mm-hmm. Et donc, d'un seul coup, il y a des tas de gens qui dépendent de vous, même financièrement, des maisons de disques, des éditeurs, etc.
Le producteur qui vous
met la pression. Et d'un seul coup, vous avez une chape de plomb qui vous tombe sur les épaules que vous n'avez pas nécessairement préparé à ça.
C'est angoissant de sortir le deuxième album après un premier qui a été un tel succès.
Ah bah oui, il y a une pression qui est différente pour deux raisons. D'abord le fait que d'un seul coup vous avez des gens qui vous attendent alors que le premier album personne ne vous attend. Et la deuxième chose, c'est le fait que un premier roman comme un premier album de cette sorte, finalement l'inspiration de cette première œuvre, entre guillemets, c'est une lente maturation depuis votre naissance, au fond. Alors que le deuxième album, vous remettez les compteurs à zéro, et donc vous n'avez que la maturation, c'est le temps entre la sortie du premier album et la sortie du deuxième. Donc on est dans un registre complètement différent, sur le plan de l'inspiration, sur le plan des émotions, sur le plan de la production, à tous les niveaux.
Jean-Michel Jarre, cette notoriété ne vous a jamais quitté depuis lors. Vous êtes l'un des artistes français les plus connus dans le monde. Qu'est-ce que vous avez appris grâce à la notoriété ?
Alors, d'abord que les succès comme les échecs sont des accidents dans le trajet d'un artiste, et je dirais dans une vie.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous l'écrivez dans le livre.
Eh bien, qu'il faut se situer, le parcours d'un artiste, c'est la moyenne. C'est-à-dire que c'est le chemin quotidien que vous suivez, quels que soient les échecs et les succès. C'est le rodéo en question, c'est-à-dire les hauts et les bas. Et en fait, il faut passer à travers et les hauts et les bas. Et donc relativiser à la fois les succès, mais aussi les échecs.
Et qu'est-ce qui vous permet, quand les choses vont moins bien, par exemple dans le livre, vous le dites clairement, la période des années 2000 a été une période où vous étiez un peu perdu. Charlotte Rampling vous offre un petit sifflet avec une boussole comme objet. Qu'est-ce qui vous a fait, je dirais, vous réorienter et tenir le coup dans des moments comme ça?
Là, il faut expliquer aux éditeurs que depuis 3 minutes, on fait tous les deux des gestes avec les mains qui sont les gestes d'une sinusoïde, c'est-à-dire une courbe qui va vers le haut ou vers le bas. Et donc, c'est important de finalement d'en parler parce que c'est ça aussi, ce sont ces hauts et ces bas qui fait qu'on a besoin des gens sur qui on peut compter, aussi bien dans les moments difficiles que dans les moments de succès, pour justement vous aider à équilibrer tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir effectivement la mère de mes enfants, qui est comme une sœur et une amie aujourd'hui.
Qui est devenue comme une amie. Vous avez vécu ensemble pendant 20 ans, vous avez divorcé.
Oui, je pense que c'est pas encore... pour les gens qui, malheureusement, les couples qui se séparent, je pense que c'est encore plus important de réussir son divorce que son mariage.
Justement, est-ce que la notoriété est propice à une vie de famille? Parce qu'on le sent, vous l'écrivez très nettement, là, quand vous avez rencontré Charlotte Rampling, l'idée de construire une famille, d'avoir des enfants, ce que vous n'aviez pas eu dans votre enfance vous-même, était quelque chose d'important. Et en même temps, vous vous êtes marié 4 fois, vous avez divorcé 3 fois. Est-ce que la notoriété est incompatible avec une vie de famille, on va dire, traditionnelle, classique?
Je pense que c'est... Oui, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse figée à votre question. Je pense que ça dépend vraiment ça dépend des rencontres, ça dépend des caractères, ça dépend des moments où on rencontre aussi ses partenaires. Je pense qu'il n'y a pas de recette. S'il y en avait une, on serait tous heureux. Je pense que... Mais la notoriété n'aide pas nécessairement... Ce n'est pas tellement la notoriété, c'est le nomadisme, ce livre, qui pourrait être d'ailleurs comme un film
que j'ai
écrit un peu de manière assez romanesque. C'était l'idée de concevoir ce livre comme nous lisions avant cet enregistrement, cette conversation. J'avais envie qu'on lise ce livre comme un roman. Et au fond, les gens qu'on peut rencontrer dans sa vie, c'est vrai que le fait d'être... je reviens à ce que je disais. Ce roman, donc, et ce livre, est en fait... les thèmes récurrents, pour moi, sont le nomadisme et puis l'apologie des femmes, indépendamment d'expliciter le parcours d'un créateur. Et au fond, les gens du voyage, c'est plus compliqué d'avoir une vie de famille régulière que quand on revient chaque soir chez soi, etc. Et puis surtout, le fait que c'est pas régulier, il y a des moments où vous êtes chez vous beaucoup, même plus que beaucoup d'autres, puisque moi je travaille chez moi, j'ai toujours travaillé dans mon studio chez moi, et puis des moments où on n'est pas là pendant plusieurs mois, en tournée, en concert, etc., ou pour des tournages de films.
Et ça, pour une vie de famille, c'est difficile.
C'est plus compliqué, on a essayé vraiment de le faire et de ne pas répéter les mêmes erreurs, justement, que j'avais subies par rapport... C'est toujours ce qu'on fait, c'est une sorte de caricature, d'ailleurs. Chacun essaie de réparer, d'aller à l'encontre, et de faire l'inverse de ce qu'on a subi quand on a subi quelque chose. Et puis finalement, comme disait Freud, quoi que vous fassiez avec vos enfants, vous y prendrez mal.
Vous parlez de Freud. Ce qui m'a impressionné dans votre parcours, et là je réévoque la mémoire de votre père. Votre père, Maurice Jarre, s'est marié 4 fois, divorcé 3 fois, et a terminé sa vie avec une personne d'origine chinoise. Vous vous êtes marié 4 fois, vous avez divorcé 3 fois, et vous venez de vous marier avec Gong Li, qui est chinoise.
C'est assez extraordinaire. Ça montre justement le fait que, quoi que vous fassiez, vous dépendez évidemment de vos parents. Ça paraît un cliché, mais pourquoi je le dis, c'est que je pense que ça peut aider un certain nombre de gens. Je pense qu'il faut régler le problème de relationnel avec ses parents, qui est finalement le problème fondamental de chaque être humain, le plus vite possible, en sachant avoir un sentiment de résilience. C'est pas seulement du pardon, c'est simplement le fait d'arriver pour soi-même, à régler ça de manière la plus harmonieuse possible, quelles que soient les souffrances, quelles que soient ce qu'on vous a fait. Je pense que c'est important, parce que justement, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas vous détachez de votre héritage génétique. Je me souviens, après des années, quand j'ai vu la première fois que j'ai déjeuné avec mon père, on avait les mêmes gestes en prenant la fourchette, en buvant notre café, alors qu'on ne s'était jamais vu et qu'on n'avait jamais... j'avais pas grandi avec lui. Donc il y a des choses comme ça. Et puis je raconte aussi que dans cette période plus négative ou plus noire, en fait, j'ai eu tendance à, à pas me conduire nécessairement très bien, de la même manière que lui s'était pas très bien conduit non plus avec un certain nombre de gens. Et ce sont des choses que j'ai réalisées aussi après, et que quoi qu'on fasse, ça apprend à l'humilité, la modestie, parce qu'on a effectivement comme ça cette espèce de rencontre parallèle subconsciente qui font qu'on n'échappe pas à ses gènes. On essaye, mais on essaie de corriger, on y arrive un peu.
Visage, l'expression de l'être.
Jean-Michel Jarre, j'aimerais que l'on parle de ces méga-concerts. Vous êtes connu comme le musicien qui a organisé des concerts gigantesques et surtout qui a accueilli des foules gigantesques. Je crois que c'est vous qui avez le record au niveau du Guinness avec 3,5 millions de spectateurs à Moscou. J'aimerais qu'on revienne à votre premier grand méga-concert, Paris, 1979, place de la Concorde. Vous êtes là, vous avez installé votre matériel, vos éclairages et vous voyez arriver cette foule. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Vous en souvenez ?
Ben oui, parce que le terme méga que vous employez, pour moi, je n'ai jamais vécu comme ça. Et quand vous faites référence à ce concert Place de la Concorde, qui était un concert pour moi qui était une expérimentation, c'était une expérience. C'est-à-dire, je me suis toujours demandé très rapidement comment porter des instruments qui ne sont pas faits pour le jeu sur scène, ces instruments électroniques qui sont nés dans des laboratoires, dans des studios, qui ne sont pas liés au jeu, comment arriver à jouer cette musique sur scène. Et donc, tout naturellement, influencé par l'opéra, je me suis dit il faut justement utiliser des techniques visuelles qui étaient les techniques de mon époque, la vidéo, la lumière, le laser, les projections d'images en extérieur, puisque j'ai toujours pensé que la musique électronique était plutôt, enfin la mienne en tout cas, était plutôt une musique faite pour l'extérieur et liée aussi à l'architecture qui m'intéressait beaucoup, de pirater un lieu comme ça le temps d'une soirée. C'était aussi l'influence du cirque de mon enfance, puisque devant l'appartement de mes grands-parents, les cirques venaient s'installer le temps d'une nuit et repartaient le lendemain matin.
Le cirque Pader, éphémère, les voilà,
souvenirs Pader, du cirque Pader, Rancy, etc. Et c'est toujours quelque chose qui m'a... Je me suis toujours dit, c'est ça... La performance, le spectacle vivant ultime, c'est justement la performance qui n'a pas de deuxième chance. Et donc, ça a joué. Et donc, à la Concorde, c'était quelque chose qui était... Je faisais ce concert de manière tout à fait... Il y a eu très peu de promotion. Et quand il y a eu 1 million de personnes qui sont venues, ça a été un choc pour moi. J'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Et ensuite, je suis devenu, d'une certaine manière, une sorte d'incarnation des méga-concerts, comme vous le disiez. Et en fait, tous les concerts que j'ai pu faire dans ma vie, je n'en ai initié aucun. C'est-à-dire que ce sont toujours des propositions qui m'ont été faites. Après, on m'a demandé, dans des circonstances que je raconte dans le livre, en Chine, de venir jouer en Chine et devenir ainsi le premier musicien occidental à jouer dans la Chine de l'après Mao, après des années.
Je conseille vraiment ce chapitre sur l'année 80 en Chine. Vous étiez dans une Chine qui n'a rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui. Ce passage est superbe.
Oui, qui est extraordinaire.
Vous étiez l'un des premiers musiciens occidentaux à jouer en Chine.
Oui, exactement. Ouais, et je pense que chacun de ces concerts, je pourrais écrire un livre sur chacun de ces concerts. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est la rencontre extraordinaire et très poétique en même temps, de tas de gens différents qui ne sont pas faits pour se rencontrer au départ. Des politiques, des taggeurs, des artistes de rue, des musiciens bien sûr, l'équipe technique est avec moi. Le fait de se frotter à des cultures qui n'ont rien à voir avec des mentalités pour préparer des projets comme celui-là. Quand on fait un concert en Chine ou en Égypte, on peut faire des concerts sur la Lune, parce que c'est tellement compliqué, et c'est ce que je raconte justement, et en même temps très fragile. Ces concerts qui d'un œil ou d'une oreille extérieure semblent des énormes productions, il y a toujours une dose que je voulais raconter dans ce livre, c'est aussi qu'il y a une dose de fragilité. Et on ne sait pas jusqu'à la dernière minute si les choses vont se faire. Donc il y a quelque chose justement du cirque, il y a quelque chose de Fellini. C'est plus Cinecittà que Hollywood.
Alors, on ne peut pas sur RCF ne pas évoquer un concert qui a été très important à Lyon en 1986. Un concert que vous avez donné en l'honneur de l'avenue du pape Jean-Paul II. 800 000 spectateurs le long des fleuves que vous aimez tant, face à la colline de Fourvière. Vous écrivez dans votre livre: ce concert revêt dans ma mémoire un éclat particulier, celui d'un clair-obscur suspendu dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'il représente, ce concert, au milieu de tous ces grands concerts que vous avez donnés dans le monde, Jean-Michel Jarre?
Alors d'abord, un télescopage, je dirais, spatio-temporel. Spatial, je dirais. La même année, je fais un concert à Houston avec la NASA, où un astronaute devait jouer dans le ciel, jouer dans l'espace. Et puis, c'est la tragédie Challenger. Et malheureusement, ce concert se transforme en hommage aux astronautes disparus sur Challenger. Et puis, quelques mois plus tard, je vais faire un autre concert lié au ciel, d'une toute autre manière, pour la visite de Jean-Paul II à Lyon, dans ma ville. Cette ville double, où deux fleuves se rencontrent, où il y a la colline qui travaille et la colline qui prie. C'est la Croix-Rousse et celle de Fourvière.
Vous choisissez Fourvière,
la colline qui prie, oui, parce que de toute façon, forcément, ça allait de soi. Et la scène va être construite devant le palais de justice, pour les gens qui connaissent Lyon, exactement sur la place du marché, qui s'appelle le marché Saint-Vincent, où j'allais quand j'étais petit avec ma grand-mère. Donc imaginez quand même l'émotion que ça peut être, que quelques années après avoir passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, aller faire les courses sur ce marché, que sur cet endroit-là, je vais faire, on construit une scène où je joue pour ma ville à une occasion pareille. Et en même temps, ça me donne aussi l'occasion, un des moments les plus émouvants de ma vie, de rencontrer le pape.
Alors vous dites justement, un des moments les plus émouvants, j'ai lu dans une autre interview, vous aviez dit que parmi tous les gens que vous avez rencontrés, et Dieu sait si vous en avez rencontré, celui qui vous a le plus impressionné, c'est Jean-Paul II. C'est vrai ça, ça
a été... Oui, Jean-Paul II, alors il y a peut-être d'autres gens qui m'ont impressionné. Pourquoi je dis ça? C'est que, indépendamment, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, indépendamment de sa position de chef de l'Église comme être humain, c'était quelqu'un qui était absolument... Je me souviens, quand il est rentré dans la pièce, la température a monté. Et en fait, j'étais fasciné par la taille de ses chaussures. On avait l'impression, comme je le dis dans le livre, qu'il avait gardé les boîtes. Et je me disais, c'est extraordinaire, cet homme qui avait 4 ans avant, était victime d'un attentat avec des balles explosives. Il faut bien comprendre ce que c'est. Une balle explosive, c'est une petite grenade, c'est une balle qui rentre dans le corps et qui explose à l'intérieur. Il aurait dû perdre la vie. Et donc, il était encore en état de souffrance. Mmh. Il s'était levé à 4-5 heures du matin, avait fait des kilomètres déjà à pied à la rencontre de gens. Il arrive, si j'ose dire, frais comme un gardon, et en parlant dans un français parfait, avec un accent polonais qui roulant les airs, un peu comme dans le Gers. Et en même temps, cet homme, donc, très planté au sol, avec la tête dans les nuages, ciel. Dans le ciel. Et quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et alors, je lui ai dit une chose qui l'a fait éclater de rire, c'est que la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit que je pardonnais volontiers à l'Église d'avoir piqué mes initiales JMJ.
Il vous a dit qu'il y a quelque chose de sacré dans votre musique. Comment vous avez reçu ça? Vous sentez-vous qu'il y a quelque chose de sacré dans votre musique?
Il faisait référence à notamment un morceau qui s'appelle Rendez-vous 2 dans l'album Rendez-vous. Et c'est vrai que cette musique-là en particulier, et puis à certains autres moments dans mon passage dans ma musique, est une musique qui a toujours été influencée d'une certaine manière par mes influences de musique classique, et notamment des Requiem. Par exemple, pour moi, une des œuvres, je ne suis pas le seul, c'est presque classique de le dire, mais le Requiem de Mozart est une des plus belles musique qui n'ait jamais été faite dans l'histoire de la musique, tout continent confondu. Donc effectivement, ce sont des influences, ça. Et comme les artistes sont des éponges, j'ai aussi... c'était Picasso qui disait que le talent... Alors, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport à moi, mais que le talent copie et le génie vole. Et je pense qu'on est tous des voleurs. Et donc, de ce point de vue-là, la musique sacrée a toujours eu une grosse influence dans mon travail. Et ce mélange entre l'expérimentation, la pop-musique et une certaine idée des structures classiques qu'on retrouve dans la musique sacrée aussi, et on nourrit ma manière de composer de manière inconsciente.
Et vous, Jean-Michel Jarre, vous croyez au ciel ou vous n'y croyez pas? Vous croyez en Dieu ou vous n'y croyez pas?
C'est ce que je dis dans le livre, je crois de plus en plus à quelque chose de moins en moins précis.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, je pense que la technologie vous pousse à rencontrer des gens qui sont souvent des scientifiques ou des astrophysiciens, qui sont des rationalistes et qui, au fond, ont une vision très... astrophysicienne de l'univers.
Mais il y a des astrophysiciens croyants et des astrophysiciens non-croyants.
Oui, enfin, j'ai rencontré quand même plus d'astrophysiciens non-croyants que croyants, hein, quand même. Ils sont en grande partie quand même.
Je vous ferai rencontrer Trix Antuan, si vous voulez.
Oui, non, mais il y en a certains, non. Enfin, globalement, j'en connais pas mal.
Et vous, alors, par rapport à la...
Et donc, moi, justement, je trouve qu'à partir du moment où on est un créateur, il y a justement cette part de mystère, la part de mystère de l'inspiration, par exemple. Comment une idée vous vient? D'ailleurs, vous verrez que la plupart des créateurs, quand ils vous parlent de l'inspiration, ils font toujours le signe avec la main du fait que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Donc, il y a cette espèce de connexion, ce mystère de la... Il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle Le poids,
des anges,
où justement,
avec votre ami
parle, J.C.
Ange.
Voilà, et je parle justement de cette connexion qu'on a en tant que créateur et que j'ai, bien entendu.
Et vous le ressentez, vous? Enfin, c'est une croyance ou c'est quelque chose que vous ressentez?
Je pense que...
Je pense que la foi,
de manière générale, est un ressenti. Bizarrement, je ne crois pas aux croyances. Je méfie des religions. Ça vient de ma mère qui me disait toujours qui était. Alors moi, je viens d'une ville. Alors je viens de parents. C'est aussi un oxymore. Donc c'est pour ça que ça me poursuit. J'avais donc vraiment des parents qui venaient de la colline qui travaille, c'est rouge du côté de ma mère, et la colline qui prie. Plus cathos du côté de mon père. Et en fait, ma mère m'a toujours élevé de manière tout à fait objective, mais elle était agnostique, libre penseur, comme on le dit. Et donc, du coup, elle était assez convaincue, elle était assez contre les religions. Je suis un peu, d'une certaine manière, c'est paradoxal d'en parler à votre micro, mais c'est vrai qu'il faut se méfier des croyances extrêmes. Donc la foi, c'est une chose, la religion, c'est autre chose, et je pense que la foi et le fait de croire est quelque chose de personnel.
Et vous qui avez beaucoup voyagé, qui avez travaillé avec des musiciens et des chanteurs du monde entier, même pour un de vos disques, vous aviez été recueillir des chants traditionnels en ethnomusicologie, comme on dit, vous avez rencontré des gens croyants d'une multitude de traditions religieuses et spirituelles.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez fait de tout ça? Comment vous vous êtes nourri de tout ça?
Eh bien, c'est justement revenir à la première réponse que je vous ai faite, c'était que je crois de plus en plus à quelque chose de moins en moins précis, parce que pourquoi? C'est une question de point de vue. C'est-à-dire que vous êtes bouddhiste, vous êtes aborigène au fond du désert australien, ou vous êtes au fin fond de la Chine. Finalement, les gens ont une relation avec le ciel, une relation avec une forme de foi, mais qui est spécifique en fonction des cultures. Et c'est ça qui est important, c'est le voyage vous apprend la tolérance. Et c'est la chose la plus importante à dire à ce micro, je pense.
Jean-Michel Jarre, vous qui êtes fasciné par les machines électroniques, les algorithmes, vous pensez que notre avenir, et notamment avec le développement de l'intelligence artificielle, sera, allez, dans le sens du progrès, du mieux vivre ou du chaos?
Je pense que les êtres humains ont cette vision systématiquement dystopique du futur, c'est-à-dire en disant génération après génération, hier c'était mieux, demain ça sera pire. Probablement parce que cette vision sombre du futur s'explique par le fait qu'à un moment donné, on n'en fera pas partie de ce futur. Donc le futur est nécessairement chez l'homme sombre à cause de ça. Et qu'on ne croit ou qu'on ne croit pas. Je veux dire, dans ces gènes, on sait qu'il y a une finitude et qui fait qu'on a toujours cette idée de l'apocalypse, au fond, que le futur est nécessairement apocalyptique.
Mais apocalypse veut dire révélation, ça ne veut pas dire destruction.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Exactement. Donc, je dirais, alors je corrige mon propos en disant que la plupart des humains ont plutôt une vision catastrophique du futur plutôt que l'inverse. Et je pense qu'on oublie que génération après génération, c'est ce qu'on a dit, et qu'au fond, si on va 150 ans en arrière, à la fin du 19e siècle, on pouvait mourir d'une grippe parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques, 90% des gens mouraient de faim sur la planète, que notre espérance de vie était de 40 ans, globalement, ça s'est quand même un peu amélioré, même si ce n'est pas rose, bien entendu.
Donc, vous n'êtes pas inquiet avec le développement de l'intelligence artificielle?
Si, inquiet ne veut pas dire nécessairement désespéré. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être optimiste par subversion face aux chaînes de télévision, de news continue, qui hypertrophient l'anxiété. C'est-à-dire qu'on vit dans un univers totalement anxiogène, en disant on ne va pas s'en sortir. Mais c'était la même chose déjà au début du XXe siècle. Donc la technologie et l'évolution de la technologie n'est pas nécessairement, encore une fois, dystopique et négative. Un exemple, la fission de l'atome a donné la bombe atomique, mais ça a aussi fait faire des progrès fantastiques sur le plan biologique, dans les sciences, dans la médecine, etc. La technologie est neutre, le progrès est neutre, ça dépend de ce qu'en font les humains. Donc l'émergence de l'intelligence artificielle n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Ce n'est ni une mauvaise nouvelle, ni une bonne nouvelle. C'est une évolution avec laquelle il va falloir qu'on s'adapte. Et il est évident que l'évolution de la technologie est de plus en plus rapide et que l'avènement de l'intelligence artificielle va être 100 fois plus brutal que l'avènement de l'électricité et de la révolution industrielle. On va de plus en plus vite, donc ça va poser énormément de problèmes sur le plan de l'emploi, sur le plan social, sur le plan de l'éducation, de la compréhension du monde qui nous entoure. C'est ça le challenge, le défi. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle.
Jean-Michel Jarre, je le savais en lisant votre autobiographie, il aurait fallu plusieurs émissions Visage. On est déjà à la fin de cet entretien. En relisant votre histoire pour écrire cette autobiographie, finalement, qu'est-ce qui vous aura donné le plus de joie dans votre vie?
Le fait de pouvoir traverser ce rodéo avec une mélancolie que j'ai réussi à juguler, et avec le fait d'avoir rencontré et de rencontrer toujours à la fois des personnes inoubliables et de vivre des moments exceptionnels. Et j'ai envie de partager en conclusion cette pensée avec nos auditeurs. C'est que d'une part, comme disait René Char, le véritable héritage n'a pas besoin de testament. Et que d'autre part, l'idée que cette phrase en exergue que je mets dans le livre, j'en mets plusieurs, mais cette phrase de Michel Serres, c'est que nous dépendons de ce qui dépend de nous. Et qu'en fait, notre destin, on doit le forger, ne jamais se décourager et continuer à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas la méthode Coué, c'est quelque chose qui est extrêmement important, quel que soit le désespoir qu'on traverse ou les joies ou les malheurs qu'on traverse.
Vous avez choisi d'écrire cette autobiographie en vous appuyant sur différents objets qui ont émaillé votre vie, votre parcours. Si vous ne deviez en prendre qu'un, un seul, avec vous, ce serait lequel?
Ça, c'est un sale coup, ça. Mmh. C'est toujours la même chose. Le fait des hits parades, c'est difficile. Je vais vous répondre. Vous parliez du sifflet boussole. C'est un très, très beau. Alors, les gens qui liront le livre comprendront pourquoi. Mmh. Et puis, sinon, probablement, ça doit être le magnétophone que m'a offert mon grand-père quand j'avais 12 ans. On comprendra aussi en lisant le livre. Je voudrais simplement dire que par rapport aux objets, pourquoi j'ai voulu aborder ce livre à travers les objets. Et je me suis même... J'ai eu des discussions avec mon éditeur qui me disait, mais quand même, tu parles de gens, ça serait bien qu'on mette des photos, parce que j'ai mis les photos des objets. Il y a très peu de photos de personnes. Et je répondrai à ça qu'un des grands atouts de la littérature, c'est justement de faire appel à l'imaginaire. Je décris ma grand-mère, qui était une femme extraordinaire. J'ai pas envie de mettre sa photo. Je veux que vous rêviez à l'image que vous avez de ma grand-mère. Et c'est le pouvoir de la littérature. C'est justement le fait de pouvoir imaginer les personnages qu'on décrit. Si on met une photo, finalement, on tue le mystère, on tue la magie de ce qu'est justement une approche romanesque et une description romanesque des personnages qui, en l'occurrence, ont traversé ma vie.
Merci beaucoup, Jean-Michel Jarre. J'étais très heureux de vous rencontrer. Merci pour cette autobiographie que je conseille très sincèrement. Je l'ai lu comme un roman, je crois que c'est ce que vous vouliez. Mais c'est un livre bourré d'histoires. On en a fait qu'évoquer quelques-unes au cours de cet entretien. Je renvoie donc au titre de ce livre, Mélancolique Rodéo, que vous avez publié chez Robert Laffont.
Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.
Chaque soir, du mardi au vendredi, je vous emmène pour un voyage de 2 heures au souffle de l'esprit, réveiller l'espérance.
Écoute dans la nuit avec Louis Auxil Maillard, du mardi au vendredi à 22h sur Radio Présence.
Vous souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière? Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 0012.
34 centimes la minute.
Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 0012.
0892 46 0012.
Le standard des auditeurs.
Flashback.
Flashback.
Flashback, une chronique musicale de Michel Brun.
L'offrande musicale. Peut-on imaginer plus beau titre? On dirait qu'à lui tout seul, il résume ce qu'ont été la vie et l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, l'offrande de sa musique faite au monde. Ce titre est celui d'une œuvre de la toute fin de sa vie, qui semble vouloir rassembler, comme en un testament, sa science du contrepoint, cet art d'entrelacer les mélodies. Rappelons tout d'abord les circonstances de sa composition. Bach enfin Jean-Sébastien, car ici le prénom compte, avait entrepris un de ses rares voyages d'homme mûr. Il avait décidé d'aller rendre visite à son second fils, Carl-Philippe Emmanuel, musicien à la cour du roi Frédéric II de Prusse. Celui-ci fut, dans la première partie de sa vie, un amoureux et un défenseur des arts. Malheureusement, il devint plus tard un prince guerrier, mais oublions ce virage funeste. Brillant flûtiste, il avait fait venir à sa cour le meilleur professeur possible, Quantz, qui était en outre un facteur d'instruments hors pair et un remarquable pédagogue. Frédéric entretenait à sa cour un des meilleurs orchestres d'Allemagne, probablement souvent chargé de l'accompagner dans un de ses concertos pour flûte, car oui, il composait, et de façon honorable. Enfin, on parlait chez lui le français, la langue chic à l'époque, Frédéric disant que l'allemand était tout juste bon pour ses palefreniers. La chronique nous dit que lorsqu'il arriva à Potsdam, le roi l'accueillit en disant à sa cour « Messieurs, voici Bach, le père !» Et avant même que Jean-Sébastien ait pu enlever son habit de voyage, il lui montre son impressionnante collection d'instruments à clavier, dont cette nouveauté intermédiaire entre le clavecin et le piano moderne, le pianoforte. Puis, Frédéric lui demande d'improviser une fugue, l'écriture la plus difficile, sur un thème de son invention. Bach s'exécute, mais propose au roi de prendre le temps de composer une fugue plus digne, dit-il, d'un thème si royal. De retour à Leipzig, il envoie à Frédéric son offrande musicale. Il y réunit tout ce qui peut s'imaginer dans l'art du contrepoint. Il va jusqu'à composer un canon appelé en crabe, c'est-à-dire que les deux voix jouent en même temps le thème royal, mais en sens contraire, l'une du début à la fin, pendant que l'autre joue la même chose à l'envers, de la fin au début. C'est une performance de compositeur incroyable. Au centre de cette œuvre hors du commun se trouve une vaste et sublime sonate dans laquelle Bach semble placer un secret. Prêtons l'oreille et nous entendrons, non pas le canard avalé par le loup dans Pierre et le loup, mais le thème royal camouflé dans ce dense tissu musical. Vous l'avez repéré ?
Radio Présence
à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Something.
dans le Comminges, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
La Sibérie sous les flammes. Les incendies ont repris en intensité ces derniers jours. Une surface équivalente à celle du...